Catherine Bachand.
Boulevard 102.1.
10h21 minutes dans le point de max. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto pour nous écouter autrement que sur les bonnes vieilles ondes FM, l'application mobile Boulevard 102.1, le blvd.fm et le twitch.tv/blvd/FM. L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales rend aujourd'hui public des résultats de sondage qui dressent un constat qu'on qualifie de préoccupant des impacts concrets du sous-financement du système de justice québécois. Et pour en parler au bout du fil, Guillaume Michaud, qui est président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Maître Michaud, bonjour.
Oui, bonjour, M. Laroche.
Qu'est-ce qui ressort là, grossièrement, mettons les grandes lignes des résultats de ce sondage-là?
Ben en fait, les grandes lignes, c'est que ça va pas bien, mais je peux vous dire, si on prend les chiffres les plus importants, là, 45% des procureurs confirment déjà avoir renoncé à poursuivre des poursuites criminelles ou abandonner des poursuites à cause d'un raison de manque de ressources. Il y en a 46 qui affirment avoir l'impression d'accepter de négocier un règlement ou une peine moindre à raison d'un manque de ressources. Puis sur ces 46%-là, ben 97% disent, ben si on fait ça, ben ça va faire baisser les standards jurisprudentiels. Et plus de 4 procureurs sur 5 affirment que leur charge de travail est trop élevée. Alors, c'est des chiffres qui sont, qui sont assez importants. Et je peux même dire qu'à Québec, là, dans la région de Québec, là, il y a 94% des procureurs qui ont souvent, parfois, l'impression que d'avoir accepté ou négocié un règlement sur des chefs d'accusation, une peine moindre. Alors, on est forcé de constater que les procureurs présentement sont on étire la ligne jusqu'au bout et tentent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais s'ils veulent pouvoir arriver à gérer les dossiers qui sont en leur possession, ben ils doivent parfois malheureusement ben régler à rabais, là, on va dire ça clairement.
C'est ça. Parce qu'il y a comme deux distinctions. Il y a les procureurs qui, des fois, vont carrément abandonner des dossiers. Là. Fait qu'il y a des gens des potentiels criminels qui passeront jamais devant la justice. Et t'as ceux qui vont passer en justice, mais qui vont avoir une peine plus clémente. C'est-tu parce que le procureur finit par se dire « Garde, OK, ça va être ça, puis c'est mieux que rien? »
Oui, il y a ça. C'est qu'on arrive à la cour, puis on se dit « Bon, ben c'est soit que le dossier tombe, parce que là, on est rendu hors délai. » On sait que le dossier va être reporté parce qu'il y a trop de dossiers à la cour cette journée-là. On sait qu'en le reportant, on va dépasser le délai, on va avoir une requête, puis le dossier va tomber. Alors, oui, pour sauver des dossiers, on fait pas ça de gaieté de cœur. On se dit pas le matin, on arrive, puis on va faire des ventes de feu, puis on va donner des peines le moins sévères possible à tout le monde. C'est pas ça l'objectif, là. Mais au bout du compte, si on arrive à la cour, puis on se dit, bon, ben, c'est soit je perds le dossier, ou je règle un peu plus bas, ben, la solution, là, entre deux choses qui ne sont pas correctes, qu'est-ce qu'on choisit? Ben, on choisit le moindre. Alors, on choisit de régler avec une sentence qui va être moins élevée que ce qu'on aurait fait si on avait eu suffisamment de ressources. Puis au niveau de l'autorisation aussi, au niveau même de prioriser des dossiers, on nous demande de faire ça, de dire, bon, ben prioriser des dossiers, prioriser les dossiers avec les victimes, puis faites votre possible avec le reste. Puis est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour autoriser un dossier? Oui, on nous demande ça également. Alors, c'est pas sur les épaules des procureurs. Là, on nous dit de faire ça présentement. On n'a pas le choix pour y arriver parce qu'on manque de procureurs. Alors, je vous dirais que ce matin, c'est pas de gaieté de cœur là, qu'on rend public les résultats de notre sondage. Là, c'est pas très reluisant pour la justice. Parce que les seuls qui peuvent en profiter présentement, c'est les criminels. Maintenant, on a essayé de parler au gouvernement depuis plusieurs mois. Ils ne nous écoutent pas. Ils ont nos chiffres depuis le mois de février. On a déposé un mémoire aux consultations prébudgétaires et le seul résultat qu'il y a eu, on n'a pas eu de contact avec le gouvernement. Ils n'ont pas voulu nous parler. Le seul résultat qu'il y a eu, c'est que le budget du DPCP a baissé. Alors, on est face à cette situation-là. Alors, faut la dénoncer. Il faut que le public sache qu'est-ce qui se passe présentement. Et on le voit aussi avec notre sondage avec le public. Le public, présentement, n'est pas rassuré par la justice criminelle. Là.
Vous parlez de sous-financement, vous parlez de manque de ressources. Ça vous prendrait quoi, au juste?
Bien, en fait, premièrement, ça prendrait le remplacement des personnes qui sont en maladie, des femmes qui sont enceintes. Là. On a des procureurs qui, présentement, on a un bassin. Au niveau des procureurs, on a 75% de femmes. Là. Et notre moyenne d'âge est autour de 40 ans. Donc, on a plusieurs femmes, présentement, qui sont de jeunes femmes professionnelles qui tombent enceintes et qui doivent quitter et ne sont pas remplacées. Alors, elles peuvent gérer à ce moment-là parfois 300, 400 dossiers. Et ces dossiers-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, sont répartis sur l'ensemble des autres procureurs qui restent. Et là, ben, il y a un autre procureur, qui tombe enceinte dans le même bureau. Alors, met de la pression sur les autres aussi. Les autres, ben, ramassent les dossiers et tombent en maladie. Alors, ça, c'est ce qui se passe présentement. Alors, on met de la pression sur des femmes qui sont supposées être heureuses de la situation qui va se passer. Hein, en ce moment, ben, les autres, ont quasiment peur de l'annoncer en disant, ben, qu'est-ce que ça va donner sur le reste de mon équipe, alors qu'il n'y a aucun sens. Donc, ça, c'est la première chose. On doit remplacer les gens qui quittent. On doit aussi investir des postes supplémentaires, là. Avant les coupures, on était rendu autour de 808 procureurs. On en a perdu 50 depuis un an et demi. Alors, on n'était déjà pas assez à 808. Et le ministre de la Justice a continué à ouvrir des tribunaux spécialisés depuis ce temps-là en disant, oui, je mets des ressources. Mais depuis ce temps-là, ben, on a fait que perdre des procureurs. On ne remplace pas ceux qui quittent. Et on n'en ajoute pas. Alors, ça donne le résultat que ça donne présentement. On a des procureurs qui sont surchargés, qui n'y arrivent pas. Et qui vont devoir faire des choix et qui font des choix présentement et ça ira pas en s'améliorant, là.
On ne remplace pas parce qu'il y a un gel d'embauche ou parce qu'il n'y a pas de candidats qui veulent aller travailler dans ces conditions-là?
Ben, on remplace pas présentement. Est-ce que les candidats présentement, est-ce qu'il y a des procureurs qui quittent en disant ça n'a pas de bon sens les conditions dans lesquelles on exerce? La réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce qu'on a des candidats? Oui, on en aurait. On a dit à des gens qu'on avait depuis un an, deux ans, trois ans, on leur a dit « Hey, on n'a plus de place pour toi, je suis désolé, on doit te laisser aller. » Alors, on a investi dans des procureurs qu'on avait depuis des années, ou de mois à des années, en leur disant « On n'a plus de ressources, malheureusement, à cause des coupures, on peut pas te garder. » Alors qu'on aurait pu les garder, ces procureurs-là. Alors oui, il y a une grosse partie, c'est une question de ressources. On a des jeunes qui vont venir travailler. Oui, c'est difficile d'attirer les procureurs qui sont plus expérimentés. Mais là, minimalement, présentement, il faut garder au moins les jeunes qu'on a, là.
Maître Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, il y a un angle que j'avais pas vu, puis vous l'avez abordé d'entrée de jeu, c'est par rapport à la jurisprudence. Tu sais, un juge qui va vouloir, entre guillemets, se débarrasser d'un dossier en se disant « bon, ben c'est mieux cette peine-là que rien pantoute », ben après ça, quand un avocat de la défense va arriver, ben il va pouvoir prendre cette peine-là dans l'historique, sans avoir le contexte qui allait avec, que c'est parce que c'est un juge qui a voulu, entre guillemets, s'en débarrasser, puis dire, hey, vous voyez, pour ce crime-là, ben, ça devrait être cette peine-là. Ça va être un problème pour l'avenir aussi.
Ben, en fait, le juge ne veut pas se débarrasser des dossiers, mais nécessairement, lui arrive avec une suggestion commune, reçoit la suggestion commune du procureur, reçoit la suggestion commune de la défense. Alors, doit l'analyser, mais il n'y a pas beaucoup de latitude à ce moment-là. Donc, la plupart du temps, va l'accepter et tout le monde a intérêt dans le système de justice vraiment à ce que les dossiers se règlent parce qu'eux aussi sont débordés, là. La cour est débordée. Alors, si on peut régler des dossiers, on va les régler, là. Alors, ce qui va faire en sorte que, et c'est pas ça l'objectif, mais ce qui va faire en sorte que dans certains dossiers, surtout les dossiers, je vais dire présentement, qui n'ont pas de victimes, là, mais qui sont pas moins importants pour un temps, par exemple, les dossiers de stupéfiants, là. Bon, on peut dire qu'il y a des victimes au bout du compte parce que les stupéfiants, ben oui, ça va causer d'autres problèmes, des armes à feu, des meurtres. Bon, mais à la base, là, une possession de stupéfiants, possession d'un kilo de stupéfiants, un kilo de cocaïne, ben il n'y a pas de victimes qui sont impliquées. Alors, on peut dire, bon, on va le régler, mais là, on va le régler un peu plus bas que ça devrait. Mais si je fais ça à chaque fois, si on fait ça pendant deux ans, trois ans, ben à ce moment-là, à moyen terme, ben ça va devenir la norme. Alors, ça va devenir la norme de donner telle peine pour tel crime, alors qu'avant, ben, quand on avait les ressources, ben, on donnait une peine beaucoup plus grande pour ça. Alors, c'est ça le danger, c'est ça que les procureurs ont peur. Quand on dit que 97% des procureurs qui sont confrontés à cette situation-là, affirme qu'ils craignent pour ça, c'est parce que c'est assez généralisé. On est sur le terrain, nous, on le sait ce qui se passe, on sait comment que ça se passe à la cour. Alors, si les acteurs du système de justice le disent, ben il faut les écouter, mais le gouvernement ne nous écoute pas, ne veut pas nous rencontrer, et j'espère qu'il y aura un changement, on aura un changement, là, vraisemblablement, là, cette semaine, là, au niveau du gouvernement. Alors, moi, j'invite la prochaine ou le prochain premier ministre à m'appeler, à me rencontrer pour que je lui montre ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que je leur avais demandé, ce qu'on a toujours refusé de faire parce qu'on veut pas faire face à la situation. Parce que si je leur montre ce qui se passe sur le terrain, ben, ils n'auront nécessairement pas le choix d'agir.
Vous avez un peu répondu en parlant des stupéfiants, mais je voulais quand même vous demander plus généralement, là, comment un procureur va décider quel cas est, entre guillemets, plus important qu'un autre? J'imagine que les crimes contre la personne, ça va toujours être priorisé.
Ben, on doit priver. C'est ce qu'on nous demande. Le directeur de poursuites criminelles et pénales nous demande de prioriser certains dossiers. Les dossiers avec victimes vulnérables, c'est les premiers dossiers qu'on doit prioriser. Maintenant, c'est beau en théorie, Mais en pratique, quand on arrive le matin, qu'on est dans une salle de cours, qu'il y a trois dossiers avec trois victimes, puis qu'on a juste le temps de procéder dans un dossier, ben qu'est-ce qu'on fait? Quel dossier qu'on priorise? On priorise-tu celui-là où la personne s'est fait faire le plus mal? Ça n'a aucun sens quand on y pense. Là.
Fait qu'il y a quand même des crimes plus graves qui peuvent finir par pas être traités.
Oui. Ben oui, nécessairement. Et c'est là que vient le choix du procureur de dire est-ce que je veux que ce crime-là tombe ou est-ce que je vais le gérer pour que la personne ait au moins une tâche à son dossier, qu'elle soit condamnée, mais qu'elle ait moins que ce qu'elle aurait eu normalement. Et là, il faut expliquer ça à la victime, ce qui n'est pas évident. Et parfois, il y a des dossiers qui sont tout simplement remis parce que ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas non plus tout régler là avec des peines moins sévères. Il y a des crimes extrêmement graves. À un moment donné, il faut les traiter. Ils sont remis et là, la victime, on doit dire à la victime, ben je m'excuse, tu vas devoir revenir une autre fois. Et là, le danger est que la victime se désengage du système de justice. Et ça arrive beaucoup, ça, je vous dirais, beaucoup dans le nord du Québec. Là, puis les dossiers sont beaucoup, beaucoup remis là-bas. Il y a des rôles énormes. Alors, la victime se désengage, reviendra jamais. Et c'est là que ça devient dangereux parce que le criminel a gagné. La victime, le but du criminel, c'est que la victime se présente pas. Alors, si la victime se présente pas, ben nous, on n'a pas le choix de prendre le dossier. De dire qu'on n'a pas de preuves à offrir.
Tu sais, je fais des liens avec un autre article qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est dans Le Devoir notamment, où est-ce qu'on apprend que pour une Montréalaise, ça y a pris un très long moment avant de réussir à rencontrer des enquêteurs à la suite d'une agression sexuelle. Elle avait réussi à passer son test là, tu sais, du côté des urgences et tout ça. Mais avant de pouvoir rencontrer un enquêteur, faute de ressources, ça a été super long pendant ce temps-là, le présumé agresseur. Libre comme l'air. Puis là, on apprend qu'en plus, avec tout ce qui se passe avec les procureurs, il y a des délais, il y a des peines qui sont négociées à la hâte. Il me semble que c'est rien d'encourageant pour quiconque pourrait un jour être confronté au système de justice des histoires comme celle-là.
Bien, je suis obligé de vous dire que vous avez raison. La victime qui doit attendre pour rencontrer un enquêteur, mais après ça, l'enquêteur, lui, doit faire son travail, doit monter son dossier. Ouais. Son dossier va être amené au procureur qui, lui, le procureur doit déjà gérer des victimes qui sont à la cour, alors on va devoir prendre le temps de lire le dossier, mais il n'y a peut-être pas le temps de lire ce dossier-là. Alors la victime va attendre aussi que le dossier, pas parce que le procureur veut pas, là, mais il peut pas l'autoriser. Parce que s'il l'autorise, ben, il sera pas capable de le traiter à la cour. S'il n'est pas capable de le traiter à la cour, ben, il y aura un Jordan. S'il y a un Jordan, ben, le dossier va tomber. Alors, c'est pas ça l'objectif. Alors, les procédures judiciaires pour une victime, présentement, je vous dirais, c'est pas le fun pour eux, là. Puis on le comprend, puis ça, ça fait partie du problème et ça fait partie de. Les procureurs sont peinés de ça et ça amène un stress qui est énorme sur eux aussi. En disant moi, je veux autoriser, je veux ce qu'il y a le mieux pour les victimes. Alors ça, c'est pas évident. On comprend très bien. Les procureurs sont très humains, là. On comprend très bien dans la situation dans laquelle peuvent vivre ces personnes-là. Mais malheureusement, on peut pas faire autrement. On fait avec ce qu'on a, là.
En terminant, Maître Guillaume Michaud, est-ce qu'il y a des solutions? Et puis, tu sais, on comprend, ça va prendre plus de staff, ça prendrait plus de procureurs, ça, c'est clair. Mais mettons, tu sais, on le sait, le Québec est dans le trouble présentement financièrement, puis il y a des choix à faire, puis... Y en aurait-il des solutions moins coûteuses, je sais pas moi, que le système de justice puisse passer encore davantage par de la visioconférence, que ça prenne moins de temps, moins de paperasse? Y a-t-il autre chose que juste ajouter du staff?
Ben, je vous dirais, on est 800, là. On est 760. Donc, d'ajouter 50 procureurs demain matin, là, 50-100 procureurs, on ne mettra pas personne dans le rouge, là. Donc, je comprends ce que vous dites. D'un autre côté, on n'est pas 50 000. Là. On est seulement 760 personnes qui fait ça au Québec, qui tirent à bout de bras le système de justice. Alors, la réponse plate que j'ai à vous dire, c'est oui, il faut ajouter du staff. Est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent être améliorées? Oui, certainement, comme dans n'importe quel corps d'emploi. Et c'est ce qu'on tente présentement. C'est ce que le directeur fait présentement. Le directeur, présentement, tous les postes qui peut remettre sur le terrain, il le fait. Là. Alors, il y a des procureurs qui donnaient des conseils, qui parlaient avec les partenaires, c'est plate. On se concentre uniquement sur notre mission, puis on remet ces procureurs-là sur le terrain. Maintenant, ça passe par l'ajout de procureurs. C'est la réponse plate que j'ai à vous dire. Ça passe par là, c'est ça. On fait pas des routes. On peut pas dire on annule une route demain matin. Là. Nous, ce qu'on a, c'est des ressources humaines. On a comme matériel des crayons, un code criminel, puis des procureurs.
Maître Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Un gros merci.
Bien, merci à vous.
Salut. Au retour de la pause, dans le Point de Max, on s'offre quelques extraits de notre entrevue de ce matin avec Stéphane Lachance, chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec. J'ai pas été impressionné par les résultats de la rencontre d'hier.
C'est des non-nouvelles là, pour toi, là.
Ouais. Puis même Stéphane Lachance en parlait, puis on a appris que... Puis là, ça me prenait 10 secondes, j'allais trouver exactement l'information qu'on avait il y a 3 ans. Fait que là, c'est-tu Stéphane Lachance qui était pas au courant? Je veux qu'on se garde la discussion tantôt, okay. je n'ai pas mal à dire. Puis toi, Catherine, tu veux nous parler d'une nouvelle tendance TikTok, entre autres, Instagram, le friction maxing.
Souvent, quand il est question de tendance des réseaux sociaux, c'est jamais bon. Dans ce cas-ci, je trouve ça très, très beau. Dans le fond, c'est le principe que plus tu vas avoir un petit peu de difficulté à travailler quelque chose, plus ça va te permettre de t'améliorer, donc de te détourner des technologies pour garder ou acquérir des nouvelles compétences.
10h36 dans le Point de Max. Le Point de Max.